Acte 3, scène première. Une autre salle dans le château. Entre le roi, la reine, Polonius, Ophélia, Rosencrantz et Guildenstern. Le roi.
Et vous ne pouvez pas, dans le courant de la causerie, savoir de lui pourquoi il montre tout ce désordre et déchire si cruellement le repos de toute sa vie par cette démence turbulente et dangereuse.
Rosencrantz.
Il avoue qu'il se sent égaré, mais pour quel motif, il n'y a pas moyen de le lui faire dire.
Guildenstern.
Nous le trouvons peu disposé à se laisser sonder. Il nous échappe avec une malicieuse folie quand nous voulons l'amener à quelque aveu sur son véritable état.
La reine.
Vous a-t-il bien reçu ?
Rosencrantz.
Tout à fait, en gentilhomme.
Guildenstern.
Oui, mais avec une humeur forcée.
Rosencrantz.
Avare de questions, mais à nos demandes très prodigue de réponses.
La reine.
L'avez-vous tâté au sujet de quelque passe-temps ?
Rosencrantz.
Madame, le hasard a voulu qu'en route nous ayons rencontré certains comédiens. Nous lui en avons parlé, et une sorte de joie s'est manifestée en lui à cette nouvelle. Ils sont ici, quelque part dans le palais, et à ce que je crois, ils ont déjà l'ordre de jouer ce soir devant lui.
Polonius.
Cela est très vrai, et il m'a supplié d'engager vos majestés à écouter et à voir la pièce.
Le roi.
De tout mon cœur, et je suis ravi de lui savoir cette disposition. Mes chers messieurs, aiguisez encore son ardeur et poussez ses idées vers ses plaisirs.
Rosencrantz.
Oui, monseigneur.
Rosencrantz et Guildenstern sortent.
Le roi.
Douce Gertrude, laissez-nous, car nous avons secrètement envoyé chercher Hamlet afin qu'il se trouve comme par hasard face à face avec Ophélia. Son père et moi, espions légitimes, nous nous placerons de manière que, voyant sans être vus, nous puissions juger nettement de leur tête-à-tête et conclure d'après sa façon d'être si c'est le chagrin d'amour ou non qui le tourmente ainsi.
La reine.
Je vais vous obéir, et pour vous, Ophélia, je souhaite que vos chastes beautés soient l'heureuse cause de l'égarement d'Hamlet, car j'espérerai que vos vertus le ramèneraient dans le droit chemin, pour votre honneur à tous deux.
Ophélia.
Je le voudrais, madame.
La reine sort.
Polonius.
Ophélia, promenez-vous ici. Gracieux maître, s'il vous plaît, nous irons nous placer.
Il parle à Ophélia.
Lisez dans ce livre. Cette apparence d'occupation colorera votre solitude. C'est un tort que nous avons souvent. Il arrive trop fréquemment qu'avec un visage dévot et une attitude pieuse, nous parvenons à sucrer le diable lui-même.
Le roi à part.
Oh, cela n'est que trop vrai. Quel cuisant coup de fouet ce mot-là donne à ma conscience. L'ajout d'une prostituée, embellie par un savant plâtrage, n'est pas plus hideuse sous ce qui la couvre que mon forfait, sous le fard de mes paroles. Oh, poids accablant!
Polonius.
Je l'entends qui vient. Retirons-nous, monseigneur.
Le roi et Polonius sortent.
Hamlet entre.
Hamlet.
Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante ? Ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte. Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir.
Rêver, peut-être.
Oui, là est l'embarras. car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant, voici la belle Ophélia. Nymphe, dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés.
Ophélia.
Mon bon Seigneur, comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés?
Hamlet.
Je vous remercie humblement, bien, bien, bien.
Ophélia.
Mon Seigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. Recevez-les donc maintenant, je vous prie.
Hamlet.
Moi, non pas, je ne vous ai jamais rien donné.
Ophélia.
Mon honoré Seigneur, vous savez très bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. Car pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre quand celui qui donne n'aime plus. Tenez, mon Seigneur.
Hamlet.
Ah, vous êtes vertueuse.
Ophélia.
Mon Seigneur.
Hamlet.
Et vous êtes belle.
Ophélia.
Que veut dire votre seigneurie?
Hamlet.
Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté.
Ophélia.
La beauté, mon Seigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu?
Hamlet.
Oui, ma foi, car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Ce fut jadis un paradoxe, mais le temps a prouvé que c'est une vérité. Je vous ai aimé jadis.
Ophélia.
Vous me l'avez fait croire, en effet, mon Seigneur.
Hamlet.
Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu a beau être greffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je ne vous aimais pas.
Ophélia.
Je n'en ai été que plus trompé.
Hamlet.
Va-t'en dans un couvent, à quoi bon te faire nourrice de pécheurs? Je suis moi-même passablement vertueux, et pourtant je pourrais m'accuser de telles choses que mieux vaudrait que ma mère ne m'eût pas enfanté. Je suis fort vaniteux, vindicatif, ambitieux. D'un signe, je puis évoquer plus de méfaits que je n'ai de pensée pour les méditer, d'imagination pour leur donner forme, de temps pour les accomplir. À quoi sert-il que des gaillards comme moi rampent entre le ciel et la terre? Nous sommes tous des gueux fieffés. Ne te fie à aucun de nous. Va tout droit dans un couvent. Où est votre père?
Ophélia.
Chez lui, mon Seigneur.
Hamlet.
Qu'on ferme les portes sur lui pour qu'il ne joue pas le rôle de niais ailleurs que dans sa propre maison. Adieu.
Ophélia à part.
Oh, secourez-le, vous, cieux clément.
Hamlet.
Si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. Va-t'en dans un couvent. Adieu. Ou si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile, car les hommes sensés savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent, allons et vite, adieu !»
Ophélia à part.
« Puissance céleste, guérissez-le !»
Hamlet.
« J'ai entendu un peu parler aussi de vos peintures. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre vous-même. Vous sautillez, vous trottinez, vous essayez, vous affublez de sobriquer les créatures de Dieu et vous donnez votre galanterie pour de l'ignorance. Allez, je ne veux plus de cela. Cela m'a rendu fou. Je le déclare, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent, allez !»
Hamlet sort.
Ophélia. Oh, que voilà un noble esprit bouleversé! L'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat. L'espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon ton, le moule de l'élégance, l'observé de tous les observateurs, perdu, tout à fait perdu. Et moi, de toutes les femmes la plus accablée et la plus misérable, moi qui ai sucé le miel de ses vœux mélodieux, voir maintenant cette noble et souveraine raison faussée et criarde comme une cloche fêlée, voir la forme et la beauté incomparable de cette jeunesse en fleurs, flétrie par la démence, oh, malheur à moi, avoir vu ce que j'ai vu et voir ce que je vois. »
Le roi et Polonius rentrent.
Le roi. L'amour. Non, son affection n'est pas de ce côté-là, non. Ce qu'il disait, quoique manquant un peu de suite, n'était pas de la folie. Il y a dans son âme quelque chose que couve sa mélancolie, et j'ai peur de voir éclore et sortir de l'œuvre quelque catastrophe. Pour l'empêcher, voici par une prompte détermination ce que j'ai résolu. Hamlet partira sans délai pour l'Angleterre, pour réclamer le tribut qu'on néglige d'acquitter. Peut-être les mères des pays différents, avec leurs spectacles variés, chasseront-ils de son cœur cet objet tenace sur lequel son cerveau se heurte sans cesse et qui le met ainsi hors de lui-même? Qu'en pensez-vous?
Polonius.
Ce sera bien vu, mais je crois pourtant que l'origine et le commencement de sa douleur proviennent d'un amour dédaigné. Eh bien, Ophélia, vous n'avez pas besoin de nous répéter ce qu'a dit le seigneur Hamlet. Nous avons tout entendu. Monseigneur, faites comme il vous plaira. Mais si vous le trouvez bon, après la pièce, il faudrait que la reine, sa mère, seule avec lui, le pressât de révéler son chagrin, qu'elle lui parle vertement. Et moi, avec votre permission, je me placerai à la portée de toute leur conversation. Si elle ne parvient pas à le pénétrer, envoyez-le en Angleterre, ou reléguez-le dans quelque lieu que votre sagesse aura choisi.
Le roi.
Il en sera fait ainsi. La folie chez les grands ne doit pas aller sans surveillance.
Ils sortent.
Scène 2. La grande salle du château. Entre Hamlet et plusieurs comédiens.
Hamlet.
Dites, je vous prie, cette tirade comme je l'ai prononcée devant vous, d'une voix naturelle. Mais si vous la braillez, comme font beaucoup de nos acteurs, j'aimerais autant faire dire mes vers par le crieur de la ville. Ne sciez pas trop l'air ainsi avec votre bras, mais usez de tout sobrement. Car au milieu même du torrent, de la tempête, et je pourrais dire du tourbillon de la passion, vous devez avoir et conserver assez de modération pour pouvoir la calmer. Oh, cela me blesse jusque dans l'âme d'entendre un robuste gaillard à perruque échevelée mettre une passion en lambeaux, voire même en haillons, et tendre les oreilles de la galerie qui généralement n'apprécie qu'une pantomime incompréhensible et le bruit. Je voudrais faire fouetter ce gaillard-là qui charge ainsi Thermagan et outre Hérode, Hérode, évitez cela, je vous prie.
Premier comédien.
Je le promets à votre honneur.
Hamlet.
Ne soyez pas non plus trop apprivoisé, mais que votre discernement soit votre guide. Mettez l'action d'accord avec la parole d'accord avec l'action. en vous appliquant spécialement à ne jamais violer la nature, car toute exagération s'écarte du but du théâtre qui, dès l'origine comme aujourd'hui, a eu et a encore pour objet d'être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image, et autant même sa forme et ses traits dans la personnification du passé. Maintenant, si l'expression est exagérée ou affaiblie, elle aura beau faire rire l'ignorant, elle blessera à coup sûr l'homme judicieux dont la critique a, vous devez en convenir, plus de poids que celle d'une salle entière. Oh, j'ai vu jouer des acteurs, j'en ai entendu louer hautement, pour ne pas dire sacrilègement, qui n'avaient ni l'accent ni la tournure d'un chrétien, d'un païen, d'un homme. Ils s'enflaient et hurlaient de telle façon que je les ai toujours crus enfantés par des journaliers de la nature, qui, voulant faire des hommes, les avaient manqués et avaient produit une abominable contrefaçon de l'humanité.
Premier comédien.
J'espère que nous avons réformé cela passablement chez nous.
Hamlet.
Oh, réformez-le tout à fait, et que ceux qui jouent les clowns ne disent rien en dehors de leur rôle, car il en est qui se mettent à rire d'eux-mêmes pour faire rire un certain nombre de spectateurs ineptes, au moment même où il faudrait remarquer quelques situations essentielles de la pièce. Cela est indigne, et montre la plus pitoyable prétention chez le clown dont c'est l'usage. Allez vous préparer.
Les comédiens sortent. Entre Polonius, Rosenkrantz et Guildenstern. Hamlet à Polonius.
Eh bien, monseigneur le roi entendra-t-il ce chef-d'œuvre ?
Polonius.
Oui, la reine aussi, et cela tout de suite.
Hamlet.
Dites aux acteurs de se dépêcher.
Polonius sort. Il s'adresse à Rosenkrantz et à Guildenstern.
Voudriez-vous tous deux presser leurs préparatifs ?
Rosenkrantz et Guildenstern.
Oui, monseigneur.
Ils sortent. Hamlet.
Holà, Horatio !
Horatio entre. Horatio.
Me voici, mon doux seigneur, à vos ordres.
Hamlet.
De tous ceux avec qui j'ai jamais été en rapport, Horatio, tu es par excellence l'homme juste.
Horatio.
Oh, mon cher seigneur.
Hamlet.
Non, ne crois pas que je te flatte, car quel avantage puis-je espérer de toi qui n'a d'autre revenu que ta bonne humeur pour te nourrir et t'habiller. À quoi bon flatter le pauvre ? Non, qu'une langue mielleuse lèche la pompe stupide, que les charnières fécondes du genou se ploient là où il peut y avoir profit à flagorner. Entends-tu ? Depuis que mon âme tendre a été maîtresse de son choix et a pu distinguer entre les hommes, sa prédilection t'a marqué de son sceau. Car tu as toujours été un homme qui sait tout souffrir comme s'il ne souffrait pas, un homme que les rebuffades et les faveurs de la fortune ont trouvé également reconnaissant. Bienheureux ceux chez qui le tempérament et le jugement sont si bien d'accord. Ils ne sont pas sous les doigts de la fortune une flûte qui sonne par le trou qu'elle veut. Donnez-moi l'homme qui n'est pas l'esclave de la passion, et je le porterai dans le fond de mon cœur, oui, dans le cœur de mon cœur, comme toi. Assez sur ce point. On joue ce soir devant le roi une pièce dont une scène rappelle beaucoup les détails que je t'ai dit sur la mort de mon père. Je t'en prie, quand tu verras cet acte-là en train, observe mon oncle avec toute la concentration de ton âme. Si son crime occulte ne s'échappe pas en un seul cri de sa tanière, ce que nous avons vu n'est qu'un spectre infernal, et mes imaginations sont aussi noires que l'enclume de Vulcain. Suis-le avec une attention profonde. Quant à moi, je riverai mes yeux à son visage. Et après, nous joindrons nos deux jugements pour prononcer sur ce qu'il aura laissé voir.
Horatio.
C'est bien, monseigneur. Si pendant la représentation il me dérobe un seul mouvement et s'il échappe à mes recherches, que je sois responsable du vol.
Hamlet.
Les voici qui viennent voir la pièce. Il faut que j'aie l'air de flâner.
À Horatio.
Allez prendre place.
On entend une marche danoise et des fanfares. Entre le roi, la reine, Polonius, Ophélia, Rosenkrantz, Guildenstern et autres. Le roi.
Comment se porte notre cousin Hamlet ?
Hamlet.
Parfaitement, ma foi. Je vis du plat du caméléon, je mange de l'air et je me bourre de promesses. Vous ne pourriez pas nourrir ainsi des chapons ?
Le roi.
Cette réponse ne s'adresse pas à moi, Hamlet. Je ne suis pour rien dans vos paroles.
Hamlet.
Ni moi non plus, je n'y suis plus pour rien.
Apollonius.
Monseigneur, vous jouâtes jadis à l'université, m'avez-vous dit ?
Apollonius.
Oui, monseigneur, et je passais pour bon acteur.
Hamlet.
Et que jouâtes-vous ?
Apollonius.
Je jouais Jules César. Je fus tué au Capitole. Brutus me tua.
Hamlet.
C'était un acte de brute de tuer un veau si capital. Les acteurs sont-ils prêts ?
Rosenkrantz.
Oui, monseigneur, ils attendent votre bon plaisir.
La reine.
Venez ici, mon cher Hamlet. Asseyez-vous auprès de moi.
Hamlet.
Non, ma bonne mère.
Montrant Ophélia.
Voici un métal plus attractif.
Polonius s'adressant au roi.
Oh, remarquez-vous cela.
Hamlet se couchant aux pieds d'Ophélia.
Madame, m'étendrai-je entre vos genoux ?
Ophélia.
Non, monseigneur.
Hamlet.
Je veux dire la tête sur vos genoux.
Ophélia.
Oui, monseigneur.
Hamlet.
Pensez-vous que j'use dans l'idée des choses grossières ?
Ophélia.
Je ne pense rien, monseigneur.
Hamlet.
C'est une idée naturelle de s'étendre entre les jambes d'une fille.
Ophélia.
Quoi, monseigneur ?
Hamlet.
Rien.
Ophélia.
Vous êtes gai, monseigneur.
Hamlet.
Qui, moi ?
Ophélia.
Oui, monseigneur.
Hamlet.
Oh, je ne suis que votre baladin. Qu'un homme de mieux à faire que d'être gai. Tenez, regardez comme ma mère a l'air joyeux. Il n'y a que 2 heures que mon père est mort.
Ophélia.
Mais non, monseigneur, il y a 2 fois 2 mois.
Hamlet.
Si longtemps ? Oh, alors que le diable se met en noir. Pour moi, je veux porter des vêtements de zibeline. Oh, ciel, mort depuis 2 mois et pas encore oublié. Alors il y a espoir que la mémoire d'un grand homme lui survive 6 mois. Mais pour cela, par Notre-Dame, il faut qu'il bâtisse force église. Sans quoi, il subira l'oubli comme le cheval de bois dont vous savez l'épitaphe. Hélas, hélas, le cheval de bois est oublié.
Les trompettes sonnent, la pantomime commence. Un roi et une reine entrent. L'air fort amoureux, ils se tiennent embrassés. La reine s'agenouille et fait au roi fort ce geste de protestation. Il la relève et penche sa tête sur son cou, puis s'étend sur un banc couvert de fleurs. Le voyant endormi, elle le quitte. Alors survient un personnage qui lui ôte sa couronne, la baise, verse du poison dans l'oreille du roi et sort. La reine revient, trouve le roi mort et donne tous les signes du désespoir. L'empoisonneur, suivi de 2 ou 3 personnages muets, arrive de nouveau et semble se lamenter avec elle. Le cadavre est emporté. L'empoisonneur fait sa cour à la reine en lui offrant des cadeaux. Elle semble quelque temps avoir de la répugnance et du mauvais vouloir, mais elle finit par agréer son amour. Ils sortent. Ophélia.
Que veut dire ceci, monseigneur ?
Hamlet.
Parbleu, c'est une embûche ténébreuse qui veut dire crime.
Ophélia.
Cette pantomime indique probablement le sujet de la pièce.
Entre le prologue.
Hamlet.
Nous le saurons par ce gaillard-là. Les comédiens ne peuvent garder un secret. Ils diront tout.
Ophélia.
Nous dira-t-il ce que signifiait cette pantomime ?
Hamlet.
Oui, et toutes les pantomimes que vous lui ferez voir. Montrez-lui sans honte n'importe laquelle. Il vous l'expliquera sans honte.
Ophélia.
Vous êtes méchant, vous êtes méchant. Je veux suivre la pièce.
Le prologue.
Pour nous et pour notre tragédie, ici inclinés devant votre clémence, nous demandons une attention patiente.
Hamlet.
Est-ce un prologue ou la devise d'une bague ?
Ophélia.
C'est bref, monseigneur.
Hamlet.
Comme l'amour d'une femme.
Entre sur le second théâtre Gonzague et Baptista.
Gonzague.
30 fois le chariot de Phébus a fait le tour du bassin salé de Neptune et du domaine arrondi de Tellus, et 30 fois 12 lunes ont de leur lumière empruntée éclairé en ce monde 30 fois 12 nuits, depuis que l'amour a joint nos cœurs et liméné nos mains par les liens mutuels les plus sacrés.
Baptista.
Puisse le soleil et la lune nous faire compter autant de fois leur voyage avant que cesse notre amour. Mais hélas, vous êtes depuis quelque temps si malade, si triste, si changé, que vous m'inquiétez. Pourtant, tout inquiète que je suis, vous ne devez pas vous en troubler, monseigneur, car l'anxiété et l'affection d'une femme sont en égale mesure, ou toutes deux nulles, ou toutes deux extrêmes. Maintenant, ce qu'est mon amour, vous le savez par épreuve, et mes craintes ont toute l'étendue de mon amour. Là où l'amour est grand, les moindres appréhensions sont des craintes. Là où grandissent les moindres craintes, croissent les grandes amours.
Gonzague.
Vraiment, amour, il faut que je te quitte, et bientôt. Mes facultés actives se refusent à remplir leurs fonctions. Toi, tu vivras après moi dans ce monde si beau, honoré, chéri, et peut-être un homme aussi bon se présentant pour époux, tu...
Baptista.
Oh, grâce du reste ! Un tel amour dans mon cœur serait trahison. Que je sois maudite dans un second mari. Nul n'épouse le second sans tuer le premier.
Hamlet à part.
De l'absinthe, voilà de l'absinthe.
Baptista.
Les motifs qui causent un second mariage sont des raisons de vil intérêt et non pas d'amour. Je donne une seconde fois la mort à mon seigneur quand un second époux m'embrasse dans mon lit.
Gonzague.
Je crois bien que vous pensez ce que vous dites là. Mais on brise souvent une détermination. La résolution n'est que l'esclave de la mémoire, violemment produite mais peu viable. Fruit vert, elle tient à l'arbre, mais elle tombe sans qu'on la secoue dès qu'elle est mûre. Nous oublions fatalement de nous payer ce que nous nous devons. Ce que, dans la passion, nous nous proposons à nous-mêmes, la passion finie, cesse d'être une volonté. Les douleurs et les joies les plus violentes détruisent leur décret en se détruisant. Où la joie a le plus de rire, la douleur a le plus de larmes. Gaieté s'attriste et tristesse s'égaie au plus léger accident. Ce monde n'est pas pour toujours, et il n'est pas étrange que nos amours mêmes changent avec nos fortunes. Car c'est une question encore à décider, si c'est l'amour qui mène la fortune ou la fortune l'amour. Un grand est-il là-bas ? Voyez ses courtisans s'envolent. Le pauvre qui s'élève fait des amis de ses ennemis. Et jusqu'ici l'amour a suivi la fortune, car celui qui n'a pas besoin ne manquera jamais d'amis, et celui qui, dans la nécessité, veut éprouver un ami vide, le convertit immédiatement en ennemi. Mais, pour conclure logiquement là où j'ai commencé, nos volontés et nos destinées courent tellement en sens contraire que nos projets sont toujours renversés. Nos pensées sont nôtres, mais leur fin non pas. Ainsi, tu crois ne jamais prendre un second mari, mais meurt ton premier maître, tes idées mourront avec lui.
Baptista.
Que la terre me refuse la nourriture et le ciel la lumière, que la gaieté et le repos me soient interdits nuit et jour, que ma foi et mon espérance se changent en désespoir, que le plaisir d'un anachorète soit la prison de mon avenir, que tous les revers qui pâlissent le visage de la joie rencontrent mes plus chers projets et les détruisent, qu'en ce monde et dans l'autre une éternelle adversité me poursuive si une fois veuve je redeviens épouse.
Hamlet à Ophélia.
Si maintenant elle rompt cet engagement-là.
Gonzague.
Voilà un serment profond. Cher, laissez-moi un moment. Ma tête s'appesantit et je tromperai volontiers les ennuis du jour par le sommeil.
Gonzague s'endort. Baptista.
Que le sommeil berce ton cerveau et que jamais le malheur ne se mette entre nous deux.
Elle sort. Hamlet s'adresse à la reine.
Madame, comment trouvez-vous cette pièce ?
La reine.
La dame fait trop de protestations, ce me semble.
Hamlet.
Oh, pourvu qu'elle tienne parole.
Le roi.
Connaissez-vous le sujet de la pièce ? Tout y est-il inoffensif ?
Hamlet.
Oui, oui, ils font tout cela pour rire, du poison pour rire, rien que d'inoffensif.
Le roi.
Comment appelez-vous la pièce ?
Hamlet.
La souricière.
Comment, pardieu, au figuré ?
Cette pièce est le tableau d'un meurtre commis à Vienne. Le duc s'appelle Gonzague, sa femme Baptista, vous allez voir. C'est une œuvre infâme, mais qu'importe, votre majesté et moi, nous avons la conscience libre, cela ne nous touche pas. Que les rosses que cela écorche ruent, nous n'avons pas les chines entamées.
Lucianus entre sur le second théâtre.
Celui-ci est un certain Lucianus, neveu du roi.
Ophélia.
Vous remplacez parfaitement le cœur, monseigneur.
Hamlet.
Je pourrais expliquer ce qui se passe entre vous et votre amant si je voyais remuer vos marionnettes.
Ophélia.
Vous êtes piquant, monseigneur, vous êtes piquant.
Hamlet.
Il ne vous en coûterait qu'un cri pour que ma pointe fût émoussée.
Ophélia.
De mieux en pire.
Hamlet.
C'est la désillusion que vous causent tous les maris. Commence, meurtrier, laisse là tes pitoyables grimaces et commence. Allons, le corbeau croasse, vengeance.
Lucianus.
Noire pensée, bras dispos, drogue prête, heure favorable, l'occasion complice, pas une créature qui regarde, mixture infecte, extraite de ronces arrachées à minuit, trois fois flétrie, trois fois empoisonnée par l'imprécation des cates. Que ta magique puissance, que tes propriétés terribles ravagent immédiatement la santé et la vie.
Il verse le poison dans l'oreille du roi endormi. Hamlet.
Il l'empoisonne dans le jardin pour lui prendre ses états. Son nom est Gonzague. L'histoire est véritable et écrite dans le plus pur italien. Vous allez voir tout à l'heure comment le meurtrier obtient l'amour de la femme de Gonzague.
Ophélia.
Le roi se lève.
Hamlet.
Quoi ? Effrayé par un feu follet ?
La reine.
Comment se trouve monseigneur ?
Polonius.
Arrêtez la pièce !
Le roi.
Qu'on apporte de la lumière, sortons !
Tous.
Des lumières, des lumières, des lumières !
Tous sortent excepté Hamlet et Horatio.
Hamlet. Oui. Que le daim blessé fuit et pleure, le cerf épargné folâtre, car les uns doivent rire et les autres pleurer. Ainsi va le monde. Si jamais la fortune me traitait de turc à mort, ne me suffirait-il pas, mon cher, d'une scène comme celle-là, avec l'addition d'une forêt de plumes et de deux roses de province sur des souliers à crever, pour être reçu compagnon dans une meute de comédiens?
Horatio.
Oui, à demi-part.
Hamlet.
Oh, à part entière!
Car tu le sais, ô démon chéri, ce royaume démantelé était à Jupiter lui-même, et maintenant celui qui y règne est un vrai Bayoc.
Horatio.
Vous auriez pu rimer.
Hamlet.
Oh, mon bon Horatio, je tiendrai 1000 livres sur la parole du fantôme. As-tu remarqué?
Horatio.
Parfaitement, mon seigneur.
Hamlet.
Quand il a été question d'empoisonnement.
Horatio.
Je l'ai parfaitement observé.
Hamlet.
Ah, ah! Allons, un peu de musique! Allons, les flageolets! Car si le roi n'aime pas la comédie, c'est sans doute qu'il ne l'aime pas, pardi. Allons, de la musique!
Entre Rosenkrantz et Guildenstern.
Guildenstern. Mon bon seigneur, daignez permettre que je vous dise un mot.
Hamlet.
Toute une histoire, monsieur.
Guildenstern.
Le roi, monsieur.
Hamlet.
Ah oui, monsieur, qu'est-il devenu?
Guildenstern.
Il s'est retiré étrangement indisposé.
Hamlet.
Par la boisson, monsieur?
Guildenstern.
Non, monseigneur, par la colère.
Hamlet.
Vous seriez montré plus riche de sagesse en allant en instruire le médecin, car pour moi, si j'essayais de le guérir, je le plongerais peut-être dans une plus grande colère.
Guildenstern.
Mon bon seigneur, soumettez vos discours à quelque logique, et ne vous cabrez pas ainsi à ma demande.
Hamlet.
Me voici apprivoisé, monsieur, parlez.
Guildenstern.
La reine, votre mère, dans la profonde affliction de son âme, m'envoie auprès de vous.
Hamlet.
Vous êtes le bienvenu.
Guildenstern.
Non, mon bon seigneur, cette politesse n'est pas de bon aloi. S'il vous plaît de me faire une saine réponse, j'accomplirai l'ordre de votre mère. Sinon, votre pardon et mon retour termineront ma mission.
Hamlet.
Monsieur, je ne puis...
Guildenstern.
Quoi, mon seigneur?
Hamlet.
Vous faire une saine réponse, mon esprit est malade. Mais, monsieur, pour une réponse telle que je puis la faire, je suis à vos ordres, ou plutôt, comme vous le disiez, à ceux de ma mère. Ainsi, sans plus de paroles, venons au fait. Ma mère, dites-vous?
Rosenkrantz.
Voici ce qu'elle dit. Votre conduite l'a frappée d'étonnement et de stupeur.
Hamlet.
Ô fils prodigieux, qui peut ainsi étonner sa mère? Mais cet étonnement de ma mère n'a-t-il pas de suite au talent? Parlez!
Rosenkrantz.
Elle demande à vous parler dans son cabinet avant que vous alliez vous coucher.
Hamlet.
Nous lui obéirons. Fut-elle 10 fois notre mère? Avez-vous d'autres paroles à échanger avec nous?
Rosenkrantz.
Monseigneur, il fut un temps où vous m'aimiez.
Hamlet.
Et je vous aime encore, par ces 10 doigts filous et voleurs.
Rosenkrantz.
Mon bon seigneur, quelle est la cause de votre trouble? Vous barrez vous-même la porte à votre délivrance en cachant vos peines à un ami.
Hamlet.
Monsieur, je veux de l'avancement.
Rosenkrantz.
Comment est-ce possible quand la voix du roi lui-même vous appelle à lui succéder en Danemark?
Hamlet.
Oui, mais en attendant l'herbe pousse. Et le proverbe lui-même se moisit quelque peu.
Entrent les acteurs, chacun avec un flageolet.
Ah, les flageolets! Voyons-en un! Maintenant, retirez-vous!
Les acteurs sortent. À Rosencrantz et à Guildenstern qui lui font signe.
Pourquoi donc cherchez-vous ma piste, comme si vous vouliez me pousser dans un filet?
Guildenstern.
Oh, monseigneur, si mon zèle est trop hardi, c'est que mon amour pour vous est trop sincère.
Hamlet.
Je ne comprends pas bien cela. Voulez-vous jouer de cette flûte?
Guildenstern.
Monseigneur, je ne sais pas.
Hamlet.
Je vous en prie.
Guildenstern.
Je ne sais pas, je vous assure.
Hamlet.
Je vous en supplie.
Guildenstern.
J'ignore même comment on en touche, monseigneur.
Hamlet.
C'est aussi facile que de mentir. Promenez les doigts et le pouce sur ces soupapes. Soufflez ici avec la bouche, et cela proférera la plus parfaite musique. Voyez, voici les trous.
Guildenstern.
Mais je ne puis forcer ces trous à exprimer aucune harmonie, je n'ai pas ce talent.
Hamlet.
Eh bien, voyez maintenant quel peu de cas vous faites de moi. Vous voulez jouer de moi, vous voulez avoir l'air de connaître mes trous, vous voulez arracher l'âme de mon secret, vous voulez me faire résonner tout entier, depuis la note la plus basse jusqu'au sommet de la gamme. Et pourtant, ce petit instrument qui est plein de musique, qui a une voix admirable, vous ne pouvez pas le faire parler, sans Dieu. Croyez-vous qu'il soit plus aisé de jouer de moi que d'une flûte? Prenez-moi pour l'instrument que vous voudrez. Vous pourrez bien me froisser, mais vous ne saurez jamais jouer de moi.
Entre Polonius.
Dieu vous bénisse, monsieur.
Polonius.
Monseigneur, la reine voudrait vous parler et sur le champ.
Hamlet.
Voyez-vous ce nuage là-bas qui a presque la forme d'un chameau?
Polonius.
Par la messe, on dirait que c'est un chameau, vraiment.
Hamlet.
Je le prendrai pour une belette.
Polonius.
Oui, il est tourné comme une belette.
Hamlet.
Ou comme une baleine.
Polonius.
Tout à fait, comme une baleine.
Hamlet.
Alors j'irai trouver ma mère tout à l'heure.
À part.
Il tire sur ma raison presque à casser la corde.
J'irai tout à l'heure.
Polonius.
Je vais le lui dire.
Polonius sort.
Hamlet.
Tout à l'heure, c'est facile à dire. Laissez-moi, mes amis.
Guildenstern, Rosencrantz et Horatio sortent.
Voici l'heure propice aux sorcelleries nocturnes, où les tombes bâillent et où l'enfer lui-même souffle la contagion sur le monde. Maintenant, je pourrais boire du sang tout chaud et faire une de ces actions amères que le jour tremblerait de regarder. Doucement. Chez ma mère, maintenant. Ô mon cœur, garde ta nature. Que jamais l'âme de Néron n'entre dans cette ferme poitrine. Soyons inflexibles, mais non dénaturés. Ayons des poignards dans la voix, mais non à la main. Quand cette affaire, ma langue et mon âme soient hypocrites. Quelque menace qu'il y ait dans mes paroles, ne consent jamais mon âme à les sceller de l'action.
Il sort. Scène 3. Une chambre dans le château. Entre le roi, Rosencrantz et Guildenstern.
Le roi.
Je ne l'aime pas. Et puis il n'y a point de sûreté pour nous à laisser sa folie errer. Donc, tenez-vous prêt. Je vais sur le champ expédier votre commission et il partira avec vous pour l'Angleterre. La sûreté de notre empire est incompatible avec les périlleux hasards qui peuvent surgir à toute heure de ces accès lunatiques.
Guildenstern.
Nous allons nous préparer. C'est un scrupule religieux et sacré de veiller au salut des innombrables existences qui se nourrissent de la vie de votre majesté.
Rosenkrantz.
Une existence isolée et particulière est tenue de se couvrir de toute la puissante armure de l'âme contre le malheur. À plus forte raison, une vie au souffle de laquelle sont suspendues et liées tant d'autres existences. Le décès d'une majesté n'est pas la mort d'un seul. Comme l'abîme, elle attire à elle ce qui est près d'elle. C'est une roue colossale fixée sur le sommet de la plus haute montagne, et dont 10 000 menus morceaux adaptés et joints forment les rayons gigantesques. Quand elle tombe, tous ces petits fragments sont, par une conséquence minime, entraînés dans sa ruine bruyante. Un roi ne rend jamais le dernier soupir que dans le gémissement de tout un peuple.
Le roi.
Équipez-vous, je vous prie, pour ce pressant voyage, car nous voulons enchaîner cet épouvantail qui va maintenant d'un pas trop libre.
Rosenkrantz et Guildenstern.
Nous allons nous hâter.
Ils sortent. Entre Polonius. Polonius.
Monseigneur, il se rend dans le cabinet de sa mère. Je vais me glisser derrière la tapisserie pour écouter la conversation. Je garantis qu'elle va le tancer vertement. Mais, comme vous l'avez dit, et dit très sagement, il est bon qu'une autre oreille que celle d'une mère, car la nature rend les mères partiales, recueille ses précieuses révélations. Adieu, mon suzerain, j'irai vous voir avant que vous ne vous mettiez au lit, pour vous dire ce que je saurai.
Le roi.
Merci, mon cher seigneur.
Polonius sort.
Oh, ma faute fermente! Elle infecte le ciel même. Elle porte avec elle la première, la plus ancienne malédiction, celle du fratricide. Je ne puis pas prier, bien que le désir m'y pousse aussi vivement que la volonté. Mon crime est plus fort que ma forte intention. Comme un homme obligé à deux devoirs, je m'arrête ne sachant par lequel commencer, et je les néglige tous deux. Quoi ? Quand sur cette main maudite le sang fraternel ferait une couche plus épaisse qu'elle-même, est-ce qu'il n'y a pas assez de pluie dans les cieux cléments pour la rendre blanche comme neige ? À quoi sert la pitié, si ce n'est à affronter le visage du crime ? Et qu'y a-t-il dans la prière, si ce n'est cette double vertu de nous retenir avant la chute ou de nous faire pardonner après ? Levons donc les yeux. Ma faute est passée. Oh, mais quelle forme de prière peut convenir à ma situation ? Pardonnez-moi mon meurtre hideux. Cela est impossible puisque je suis encore en possession des objets pour lesquels j'ai commis le meurtre, ma couronne, ma puissance, ma femme. Peut-on être pardonné sans réparer l'offense ? Dans les voies corrompues de ce monde, la main dorée du crime peut faire dévier la justice. Et l'on a vu souvent le gain criminel lui-même servir à acheter la loi. Mais il n'en est pas ainsi là-haut. Là, pas de chicane. Là, l'action se poursuit dans toute sa sincérité. Et nous sommes obligés nous-mêmes, dussent nos fautes démasquées, montrer les dents, de faire notre déposition. Quoi donc ? Qu'ai-je encore à faire ? Essayez ce que peut le repentir. Que ne peut-il pas ? Mais aussi, que peut-il pour celui qui ne peut pas se repentir ? Oh, situation misérable ! Oh, conscience noire comme la mort ! Oh, pauvre âme engluée, qui en te débattant pour être libre, t'engage de plus en plus ? Au secours, ange, faites un effort ! Pliez, genoux inflexibles, et toi, cœur, que tes fibres d'acier soient tendres comme les nerfs d'un enfant nouveau-né, puisse tout bien finir.
Il se met à genoux à l'écart. Entre Hamlet. Hamlet.
Je puis agir à présent. Justement, il est en prière. Oui, je vais agir à présent. Mais alors il va droit au ciel. Et est-ce ainsi que je suis vengé? Voilà qui mérite réflexion. Un misérable tue mon père, et pour cela, moi, son fils unique, j'envoie ce misérable au ciel. Ah, c'est une faveur, une récompense, non une vengeance. Il a surpris mon père plein de pain, brutalement, quand ses péchés épanouis étaient frais comme le mois de mai. Et qui sait, hormis le ciel, quelle charge pèse sur lui? D'après nos données et nos conjectures, elles doivent être accablantes. Serait-ce donc me venger que de surprendre celui-ci au moment où il purifie son âme, quand il est en mesure et préparé pour le voyage? Non, arrête mon épée, réserve-toi pour un coup plus horrible, quand il sera saoul et endormi, ou dans ses colères ou dans les plaisirs incestueux de son lit, en train de jouer ou de jurer, ou de faire une action qui n'est pas même l'arrière-goût du salut. Alors culbute-le de façon que ses talons ruent vers le ciel et que son âme soit aussi damnée, aussi noire que l'enfer où elle ira. Ma mère m'attend. Se tournant vers le roi, ce palliatif-là ne fait que prolonger tes jours malades. Il sort, le roi se lève et s'avance. Le roi. Mes paroles s'envolent, mes pensées restent en bas. Les paroles sans les pensées ne vont jamais au ciel. Il sort.
Scène 4. La chambre de la reine. Entre la reine et Polonius.
Polonius. Il va venir à l'instant. Grondez-le à fond, voyez-vous. Dites-lui que ses escapades ont été trop loin pour qu'on les supporte, et que votre grâce s'est interposée entre lui et une chaude colère. Je m'impose silence dès à présent. Je vous en prie, menez-le rondement.
Hamlet, derrière le théâtre.
Mère, mère, mère!
La reine.
Je vous le promets. Confiez-vous à moi. Éloignez-vous, je l'entends venir. Polonius se cache. Entre Hamlet.
Hamlet.
Me voici, mère. De quoi s'agit-il?
La reine.
Hamlet, tu as gravement offensé ton père.
Hamlet.
Mère, vous avez gravement offensé mon père.
La reine.
Allons, allons, votre réponse est le langage d'un extravagant.
Hamlet.
Tenez, tenez, votre question est le langage d'une coupable.
La reine.
Eh bien, qu'est-ce à dire, Hamlet?
Hamlet.
Que me voulez-vous?
La reine.
Avez-vous oublié qui je suis?
Hamlet.
Non, sur la Sainte-Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Et plût à Dieu qu'il en fût autrement, vous êtes ma mère.
La reine.
Eh bien, je vais vous envoyer des gens qui sauront vous parler.
Hamlet.
Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne sortirez pas, que je ne vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même.
La reine.
Que veux-tu faire? Veux-tu m'assassiner? Au secours, holà!
Polonius, derrière la tapisserie.
Quoi donc, holà, au secours?
Hamlet dégainant.
Tiens, un rat!
Il donne un coup d'épée dans la tapisserie.
Mort! Un ducat qu'il est mort!
Polonius, derrière la tapisserie.
Oh, je suis tué! Il tombe et meurt.
La reine.
Oh mon Dieu, qu'as-tu fait?
Hamlet.
Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi?
Il soulève la tapisserie et traîne le corps de Polonius.
La reine. Oh, quelle action insensée et sanglante!
Hamlet.
Une action sanglante, presque aussi mauvaise, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère.
La reine.
Que de tuer un roi ?
Hamlet.
Oui, madame, ce sont mes paroles.
Apollonius.
Toi, misérable, impudent, indiscret, imbécile, adieu ! Je t'ai pris pour un plus grand que toi. Subis ton sort. Tu sais maintenant que l'excès de zèle a son danger.
À sa mère.
Cessez de vous tordre les mains. Silence, asseyez-vous que je vous torde le cœur. Oui, j'y parviendrai s'il n'est pas d'une étoffe impénétrable, si l'habitude du crime ne l'a pas fait de bronze et rendu inaccessible aux sentiments.
La reine.
Qu'ai-je fait pour que ta langue me flagelle de ce bruit si rude ?
Hamlet.
Une action qui flétrit la rougeur et la grâce de la pudeur, qui traite la vertu d'hypocrite, qui enlève la rose au front pur de l'amour innocent et y fait une plaie, qui rend les vœux du mariage aussi faux que les serments du joueur. Oh, une action qui du corps du contrat arrache l'esprit, et fait de la religion la plus douce une rhapsodie de mots. La face du ciel en flamboie, et la terre, cette masse solide et compacte, prenant un aspect sinistre comme à l'approche du jugement, à l'âme malade de cette action.
La reine.
Hélas ! Quelle est l'action qui gronde si fort dans cet exorde foudroyant ?
Hamlet.
Regardez cette peinture-ci et celle-là. Ce sont les portraits des deux frères. Voyez quelle grâce respirait sur ce visage, les boucles d'Hyperion, le front de Jupiter lui-même, l'œil pareil à celui de Mars pour la menace ou le commandement. L'attitude comme celle du héros Mercure quand il vient de se poser sur une colline à fleur de ciel. Un ensemble, une forme vraiment, où chaque dieu semblait avoir mis son sceau pour donner au monde le type de l'homme. C'était votre mari. Regardez maintenant à côté. C'est votre mari. Mauvais grain gâté, fratricide du bon grain. Avez-vous des yeux ? Avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide pour vous vautrer dans ce marais ? Ah ! Avez-vous des yeux ? Vous ne pouvez pas appeler ça de l'amour, car à votre âge, le sang le plus ardent s'apprivoise, devient humble et suit la raison.
Il montre les deux tableaux.
Et quel être raisonnable voudrait passer de ceci à ceci ? Vous êtes sans doute doué de perception. Autrement, vous ne seriez pas doué de mouvement. Mais sans doute la perception est paralysée en vous, car la folie ne ferait pas une pareille erreur. La perception ne s'asservit pas au délire à ce point. Elle garde assez de discernement pour remarquer une telle différence. Quel diable vous a ainsi attrapé à Colin Maillard ? La vue sans le toucher sans la vue, l'ouïe sans les mains et sans les yeux, l'odorat seul, une partie même malade d'un de nos sens ne serait pas à ce point stupide. Oh, honte ! Où est ta rougeur, enfer rebelle ? Si tu peux te mutiner ainsi dans les os d'une matrone, la vertu ne sera plus pour la jeunesse brûlante qu'une cire, toujours fusible à sa flamme. Qu'on ne proclame plus le déshonneur de quiconque est emporté par une passion ardente, puisque les frimas eux-mêmes prennent feu si vivement et que la raison prostitue le désir.
La reine.
Oh, ne parle plus, Hamlet. Tu tournes mes regards au fond de mon âme, et j'y vois des taches si noires et si tenaces que rien ne peut les effacer.
Hamlet.
Et tout cela pour vivre dans la sueur fétide d'un lit immonde, dans une étuve d'impureté mielleuse, et faisant l'amour sur un sale fumier.
La reine.
Oh ! Ne me parle plus, ces paroles m'entrent dans l'oreille comme autant de poignards. Assez, mon doux Hamlet.
Hamlet.
un meurtrier, un scélérat, un maraud. Dîme 20 fois amoindri de votre premier seigneur, un bouffon de roi, un coupe-bourse de l'empire et du pouvoir, qui a volé sur une planche le précieux diadème et l'a mis dans sa poche.
La reine. Assez.
Entre le spectre. Hamlet.
Un roi de chiffon et de tréteau. Sauvez-moi et couvrez-moi de vos ailes, vous, céleste garde.
Au spectre.
Que voulez-vous, gracieuse figure?
La reine.
Hélas, il est fou.
Hamlet.
Ne venez-vous pas gronder votre fils tardif de différer, en laissant périmer le temps et la passion, l'importante exécution de vos ordres redoutés? Oh, dites!
Le spectre.
N'oublie pas, cette visitation n'a pour but que déguiser ta volonté presque émoussée. Mais regarde, la stupeur accable ta mère. Oh, interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Plus le corps est faible, plus la pensée agit fortement. Parle-lui, Hamlet.
Hamlet.
Qu'avez-vous, madame?
La reine.
Hélas, qu'avez-vous vous-même? Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide et échangez-vous des paroles avec l'air impalpable? Vos esprits regardent avec effarement par vos yeux et comme des soldats réveillés par l'alarme, vos cheveux, excroissance animée, se lèvent de leur lit et se dressent. Ô mon gentil fils, jette sur la flamme brûlante de ta fureur quelques froides gouttes de patience. Que regardez-vous?
Hamlet.
Lui, lui, regardez comme sa lueur est pâle. Une pareille forme prêchant une pareille cause à des pierres les rendrait sensibles.
Au spectre.
Ne me regardez pas, de peur que l'attendrissement ne change ma résolution opiniâtre. L'acte que j'ai à faire perdrait sa vraie couleur, celle du sang pour celle des larmes.
La reine.
À qui dites-vous cela?
Hamlet.
Mais ne voyez-vous rien, là?
La reine.
Rien du tout. Et pourtant, je vois tout ce qui est ici.
Hamlet.
N'avez-vous rien entendu?
La reine.
Non, rien que vos propres paroles.
Hamlet.
Tenez, regardez, là, voyez comme il se dérobe. Mon père, vêtu comme de son vivant, regardez, le voilà justement qui franchit le portail. Le spectre sort.
La reine.
Tout cela est forgé par votre cerveau, le délire a le don de ces créations fantastiques.
Hamlet.
Le délire. Mon pouls comme le vôtre bat avec calme et fait sa musique de santé. Ce n'est point une folie que j'ai proférée. Voulez-vous en faire l'épreuve? Je vais tout vous redire. Un fou n'aurait pas cette mémoire. Mère, au nom de la grâce, ne versez pas en votre âme le baume de cette illusion que c'est ma folie qui parle et non votre faute. Vous ne feriez que fermer et cicatriser l'ulcère, tandis que le mal impur vous minerait tout intérieurement de son infection invisible. Confessez-vous au ciel. Repentez-vous du passé, prévenez l'avenir, et ne couvrez pas les mauvaises herbes d'un fumier qui les rendra plus vigoureuses. Pardonne-moi ces paroles, ô ma vertu, car au milieu d'un monde devenu poussif à force d'engraisser, il faut que la vertu même demande pardon au vice, il faut qu'elle implore à genoux la grâce de lui faire du bien.
La reine.
« Oh, Hamlet, tu m'as brisé le cœur en deux. »
Hamlet.
« Oh, rejetez-en la mauvaise moitié et vivez purifié avec l'autre. Bonne nuit. Mais n'allez pas au lit de mon oncle. Affectez la vertu si vous ne l'avez pas. L'habitude, ce monstre qui dévore tout sentiment, ce démon familier, est un ange en ceci que pour la pratique des belles et bonnes actions, elle nous donne aussi un froc, une livrée facile à mettre.
Abstenez-vous cette nuit, cela rendra un peu plus aisée l'abstinence prochaine. La suivante sera plus aisée encore, car l'usage peut presque changer l'empreinte de la nature. Il peut dompter le démon ou le rejeter avec une merveilleuse puissance. Encore une fois, bonne nuit. Et quand vous désirerez pour vous la bénédiction du ciel, je vous demanderai la vôtre. »
Montrant Polonius, « Quant à ce seigneur, j'ai dû repentir, mais les cieux ont voulu nous punir tous deux, lui par moi, moi par lui, en me forçant à être leur ministre et leur fléau. Je me charge de lui, et je suis prête à répondre de la mort que je lui ai donnée. Allons, bonne nuit encore, il faut que je sois cruel, rien que pour être humain. Commencement douloureux, le pire est encore à venir. »
Encore un mot, bonne dame.
La reine.
Que dois-je faire?
Hamlet.
Rien, absolument rien de ce que je vous ai dit. Que le roi à tout gonfler vous attire de nouveau au lit, qu'il vous pince tendrement la joue, qu'il vous appelle sa souris, et que, pour une paire de baisers fétides, ou en vous chatouillant le cou de ses doigts damnés, il vous amène à lui révéler toute cette affaire, à lui dire que ma folie n'est pas réelle, qu'elle n'est qu'une ruse. Il sera bon que vous le lui appreniez, car une femme qui n'est qu'une reine, belle, sensée et sage, pourrait-elle cacher à ce crapaud, à cette chauve-souris, à ce matou, d'aussi précieux secrets? Qui le pourrait? Non. En dépit du bon sens et de la discrétion, ouvrez la cage sur le toit de la maison pour que les oiseaux s'envolent, et vous, comme le fameux singe, pour en faire l'expérience, glissez-vous dans la cage et cassez-vous le cou en tombant.
La reine.
Sois sûr que si les mots sont faits de souffle et si le souffle est fait de vie, je n'ai pas de vie pour souffler mot de ce que tu m'as dit.
Hamlet.
Il faut que je parte pour l'Angleterre, vous le savez.
La reine.
Hélas, je l'avais oublié, c'est décidé.
Hamlet à part. Il y a des lettres cachetées et mes deux condisciples auxquels je me fie comme à des vipères prêtes à mordre portent les dépêches. Ce sont eux qui doivent me frayer le chemin et m'attirer au guet-apens. Laissons faire. C'est un plaisir de faire sauter l'ingénieur avec son propre pétard. J'aurai du malheur si je ne parviens pas à creuser d'une toise au-dessous de leur mine et à les lancer dans la lune. Oh, ce sera charmant de voir ma contre-mine rencontrer tout droit leur projet. Montrant Polonius.
Commençons nos paquets par cet homme, et fourrons ses entrailles dans la chambre voisine.
Mère, bonne nuit. Vraiment, ce conseiller est maintenant bien tranquille, bien discret, bien grave. Lui qui, vivant, était un drôle si niais et si bavard.
Allons, monsieur, finissons-en avec vous. Bonne nuit, ma mère.
La reine sort d'un côté, Hamlet d'un autre, entraînant le corps de Polonius.